j'ai entendu parler d'un galion qui a coulé au large de la Jamaïque. Ses cales sont remplies d'or, de pierres précieuses et de luxueuses étoffes. Un vieux parchemin trouvé au fond d'un grenier poussiéreux nous conduira jusqu'à lui. Si vous n'avez pas le mal de mer, suivez-moi. Si vous avez le mal de mer, suivez-moi quand même. Nous voguerons sur les flots, du lagon de Maracaibo au rivage de Zanzibar, de l'île d'Hispaniola au dock de Liverpool, de Valparaiso au détroit de Malacca. Mascaré, votre nouveau magazine consacré à la culture maritime, aux boucaniers et aux terrae incognitae. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première chronique de Mascaré, la petite sœur de l'Odyssée géographique qui vous emmènera sur les flots sans sortir de chez vous. Et pour cette première chronique, je vais vous faire découvrir la vie d'un pirate connu pour sa cruauté et pour avoir écumé la mer des Caraïbes à la recherche de trésors mais aussi de possessions territoriales, un pirate qui était mandaté par la couronne britannique pour faire la guerre à l'Espagne. Je vais vous donc vous parler de Sir Henry Morgan. Henry Morgan est resté un personnage atypique dans l'histoire des pirates et de la flibusterie, car au-delà de ses fonctions de pirate, il a également été gouverneur de la Jamaïque, car visiblement la couronne britannique ne lui a pas tenu rigueur de la cruauté de ses actes. Alors je vais revenir un peu plus longuement sur sa vie dans la suite de cette chronique, mais sachez déjà que Henry Morgan, il est connu notamment pour le sac de Panama. Panama, qui aujourd'hui est connu pour être un célèbre paradis fiscal, était un point de passage incontournable pour récupérer les richesses qui provenaient notamment des mines d'or du Pérou. Et après vous avoir narré les aventures de la vie d'Henry Morgan, je vous parlerai de la relation ambiguë qui illustre en fait la vie d'Henry Morgan, la relation ambiguë entre le gouvernement, enfin en tout cas pour la peine la couronne britannique, et les corsaires, qui finalement étaient des pirates, mais qui agissaient de manière légale, entre guillemets, puisqu'ils étaient mandatés par une autorité politique. Henry Morgan, le flibustier des Caraïbes, c'est tout de suite dans Mascaré. Alors, Henry Morgan est né le 24 janvier 1635 au Pays de Galles et il est mort le 25 août 1688 en Jamaïque. Alors, les premières années de sa vie relèvent plus de la légende que de l'exactitude historique. Ce que l'on sait, c'est qu'a priori, il s'est engagé comme mousse en Angleterre et qu'il a commencé sa carrière de corsaire, donc de pirate agissant de manière quasi légale, à la Barbade puis en Jamaïque. Sa carrière de flibustier démarre au milieu des années 1660 et il est connu pour avoir pillé la ville de Granada, actuellement au Nicaragua. En 1668, il est expédié à Cuba par le gouverneur de la Jamaïque, puisque en fait à ce moment-là, l'Angleterre craignait que Cuba serve de base arrière pour une invasion des colonies britanniques dans les Caraïbes. Et c'est ainsi qu'Henry Morgan, accompagné d'une poignée d'hommes, va réaliser une expédition punitive à Puerto Principe. Les autorités britanniques ne lui tiendront pas rigueur de ce pillage et de la cruauté des actes qui vont avec. En 1669, il poursuit sa carrière en pillant la ville de Maracaibo au Venezuela. Alors il faut souligner que cette période, c'est une période de tension entre la Jamaïque et le Venezuela, et c'est ainsi que Morgan va prendre la tête de la flotte de navires de guerre de la Jamaïque. Il obtient à cette époque l'autorisation, de la part de la couronne britannique, d'attaquer les colonies espagnoles de la région, ainsi que tout navire battant pavillon espagnol. Alors j'y reviendrai ultérieurement, mais cette période est marquée par de fortes tensions entre l'Angleterre et l'Espagne. Et ce sont essentiellement des tensions liées à des questions commerciales et à des possessions coloniales, dans les Caraïbes notamment. Alors d'une certaine manière, Henry Morgan, il agissait comme ce que l'on appellerait aujourd'hui un mercenaire, Alors, les mercenaires, vous en avez certainement entendu parler avec des sociétés comme Blackwater ou Halliburton en Irak, ou beaucoup plus près de nous en ce moment, la section Wagner, qui est en gros constituée de mercenaires russes et qui agit au Sahel. Dans les Caraïbes, Henry Morgan va donc réaliser le pillage de Cuba en mettant la main en 1670 sur l'île de Santa Catalina. Et Henry Morgan, à ce moment-là, dispose d'une armée comprise entre 1000 et 2000 hommes. En janvier 1871, Morgan et ses hommes arrivent à Panama et c'est à ce moment-là que va se produire son fait d'armes le plus célèbre. En 1871, Henry Morgan remporte la bataille de Mata Asnillos, plus connue sous le nom de Sac de Panama. C'est un fait d'armes qui va asseoir un peu plus sa réputation de cruauté ainsi que celle de ses hommes. Alors il faut savoir que pour ce sac de Panama, des navires français ainsi que près de 500 Français ont participé à cette opération. Je vous le disais au début, Panama occupait une place stratégique dans la région Caraïbe, puisqu'il y avait des mines d'or qui étaient situées au Pérou, et les marchandises qui revenaient du Pérou devaient transiter par Panama pour ensuite être acheminé par voie terrestre jusqu'à Portobello. Dans son avancée vers Panama, Henry Morgan et ses hommes sont ralentis par la résistance des Espagnols qui connaissent parfaitement le terrain et qui donc ont un avantage stratégique sur les troupes de Morgan. Le gouverneur de Panama a ordonné que soit menée la politique de la terre brûlée face à l'avancée de Morgan. Et par politique de la terre brûlée, le gouverneur avait demandé à sa population de faire en sorte que les hommes de Morgan ne puissent pas trouver de ravitaillement alimentaire en route. Alors, l'histoire raconte que le gouverneur de Panama, Don Juan Pérez de Guzmán y Gonzaga, a tenté une dernière opération pour ralentir définitivement les hommes de Morgan en lâchant plusieurs centaines de taureaux. Il semblerait que ce lâcher de taureaux n'a pas beaucoup ralenti les hommes de Morgan, mais en tout cas, c'est un geste qui est resté dans l'histoire. Alors face à la déroute, le gouverneur de Panama ordonne de faire sauter les barils de poudre qui sont dispersés aux quatre coins de la ville de Panama. Cette décision va entraîner un gigantesque incendie qui va à la fois pénaliser les habitants de Panama, mais qui va aussi, d'une certaine manière, ralentir les hommes de Morgan. Alors le pillage de Panama va durer près de 3 semaines, et la ville n'est quasiment qu'un champ de ruines à la fin. Et c'est en 1673 qu'une nouvelle capitale va être créée. C'est la capitale actuelle de Panama, que l'on appelle Panama City. Et le sac de Panama remportera à Henry Morgan une coquette somme qui est estimée entre 140 000 à 400 000 pesos, une véritable fortune. Après vous avoir narré la vie trépidante et les exploits plus ou moins avouables d'Henry Morgan, je vais vous parler un petit peu du contexte politique international, puisque Henry Morgan a vécu à une époque qui était marquée par de fortes tensions entre l'Espagne et l'Angleterre. L'Espagne, à l'instar de l'Angleterre, était une importante puissance territoriale et une puissance coloniale également. Et l'Angleterre souhaitait, à cette époque, récupérer des terres espagnoles. Il y a eu une guerre anglo-espagnole entre 1625 et 1630. En gros, cette guerre a opposé l'Espagne à l'Angleterre et aux Provinces-Unies. Et les Provinces-Unies regroupaient la zone, d'une certaine manière, aujourd'hui, ça serait un peu la zone du Benelux, en fait, notamment avec les Pays-Bas. Alors, il y a une bataille qui est restée célèbre en 1625, qui est la bataille de Cadix, et qui a été un échec retentissant pour les Anglais, et qui a mis un frein, on va dire, à leurs ambitions d'expansion territoriale et coloniale. À ce moment-là, aux Antilles, il y avait des comptoirs français et anglais qui avaient été installés sur l'île de Saint-Kitts et Nevis, au milieu des Caraïbes. Et l'Espagne souhaitait reconquérir cette île de Saint-Kitts et Nevis, qu'elle avait découverte au tournant des années 1500. La bataille s'engage, l'Espagne remporte cette bataille, les comptoirs français et anglais sont détruits, et ainsi Saint Kitts et Nevis revient dans le giron espagnol. Dans la construction de leur politique territoriale et coloniale, les Anglais vont envahir la Jamaïque en 1655. Alors initialement, ce n'était pas l'île de la Jamaïque qui visait, mais c'était plutôt l'île d'Hispaniola, qui est aujourd'hui l'île d'Haïti. L'île d'Hispaniola qui était connue pour ses richesses, d'où le fait que cette île fasse l'objet de convoitises. Alors il faut garder une chose en tête, c'est que par la suite, au XVIIIe siècle, la Jamaïque a été la plus riche colonie anglaise des Caraïbes, de la zone Caraïbe. Et ce qui explique cette puissance, en tout cas cette richesse que représentait la Jamaïque, c'est l'importance de l'industrie sucrière. Alors dans les années qui suivent 1655, les Espagnols vont tenter de reprendre le contrôle de la Jamaïque, mais ils ne vont pas y arriver. Et le sort de la Jamaïque sera réglé par le traité de Madrid en 1670. Et par ce traité, la Jamaïque devient officiellement colonie britannique. À ce moment-là, l'Angleterre va également prendre possession des îles Caïmans. Ce traité, d'une certaine manière, c'est un accord de cessez-le-feu entre l'Angleterre et l'Espagne qui s'engage à ne plus essayer de conquérir, ou en tout cas de récupérer, les terres de l'adversaire. Ainsi s'achève cette première chronique de Mascaret consacrée à la vie du flibustier Henry Morgan. Dans une autre chronique, je reviendrai plus en détail et de manière plus fine sur la distinction entre flibustier, corsaire et pirate. Quoi qu'il en soit, comme je vous l'ai dit, Henry Morgan agissait à la solde de la couronne britannique, d'où le fait que je l'ai qualifié de mercenaire. Et pour la petite anecdote, en 1674, après le sac de Panama, Henry Morgan a été jeté en prison, notamment sous l'impulsion de Marianne d'Autriche. Mais 3 ans plus tard, il est de retour en Jamaïque et il a été nommé gouverneur de la Jamaïque. Ce qui me paraissait intéressant d'évoquer aujourd'hui avec vous, c'était justement ce rôle de mercenaire que représentait Henry Morgan. Puisque d'une certaine manière, déjà à ce moment-là, les gouvernements sous-traitaient certaines de leurs activités bellicistes à des tiers, ce qui leur permettait d'une certaine façon de tirer bénéfice de ces activités, mais le cas échéant, lorsque les choses tournaient mal, ils pouvaient aussi se dégager de toute responsabilité. Comme quoi, vous voyez, les choses n'ont pas beaucoup évolué. Et ce qui me paraît intéressant, c'est d'illustrer en fait toute l'ambiguïté de la relation qui existe entre les autorités politiques et les corsaires. Mais j'y reviendrai dans d'autres chroniques ultérieurement. Et un autre sujet que j'ai évoqué très brièvement par le biais de l'exemple de la Jamaïque, c'est l'importance de l'économie sucrière et du commerce triangulaire. Mais j'y reviendrai là aussi à l'occasion d'une prochaine chronique. En attendant, je vous souhaite bon vent sur les ondes radiophoniques.